Hello, c'est Mariama. Bienvenue sur le podcast Mommy Rock. Entreprendre tout en étant maman, impossible ? Faux. Et c'est ce que je cherche à démystifier au travers de mes rencontres avec des femmes qui ont osé concrétiser leur désir d'entreprendre sans pour autant renoncer à leur vie de femme et de mère. Dans chaque épisode, nous reviendrons sur leurs parcours et projets. Nous échangerons sans filtre sur leur quotidien de mompreneur, où elles nous partageront leurs expériences, leurs bonnes pratiques et conseils. L'idée derrière tout ça ? Vous inspirer, vous encourager, vous décomplexer, mais surtout vous donner l'impulsion pour concrétiser vos projets et idées. Je vous donne rendez-vous un dimanche sur deux, et pour en savoir plus sur l'origine de ce podcast, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction. Dans ce nouvel épisode, je suis allée à la rencontre de Linda, chef culinaire, une personnalité pétillante et empreinte d'un rare positivisme. Son credo, kiffer et faire kiffer, et c'est ce qu'elle souhaite transmettre à travers sa cuisine et son univers. Celle qui était destinée à poursuivre des études de médecine, s'est découvert une véritable passion pour la cuisine, très tôt dans son parcours, et n'a pas hésité une seule seconde à se lancer. On est revenu sur ses débuts dans la cuisine et sur les plateaux télé, de sa capacité à rebondir face aux épreuves vécues, des rencontres qui ont impacté sa vie et de ses mini-kifs quotidiens ô combien importants. Enjoy! Salut Linda!
Salut Mariama!
Linda, merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis très contente de te rencontrer.
Avec plaisir.
Je t'ai découverte via Instagram avec tes stories vraiment délirantes, notamment les stories Cook and Dance.
Ah.
Personne ne fait ça mieux que toi, je crois.
Merci!
Donc Linda est fondatrice de Let's Cook Tonight. C'est tout ce qui est animation culinaire, tu me reprends si j'ai des bêtises.
Pour l'instant tout bon.
Linda est maman de Wayan, âgée de 6 ans.
Oui.
Linda, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter aussi ton activité?
Oui, donc moi c'est Linda, je suis chef de cuisine, j'ai ma société comme tu disais Let's Cook Tonight. Ça fait 5 ans maintenant que je suis dans la cuisine, j'ai commencé en pâtisserie, je suis maintenant en cuisine pure. J'ai toujours travaillé à mon compte. On en reparlera ensuite un peu plus. Mon entreprise est née après la naissance de mon fils, du coup. J'ai passé mon CAP pendant que j'étais, pendant que je venais juste d'accoucher, finalement. Et puis voilà, j'ai mon fils Wayan, je suis maman solo.
D'accord.
Je me suis séparée du père de mon fils il y a pas mal de temps. Ça se passe très bien néanmoins avec lui, mais voilà, mon fils a 6 ans, il va entre CP à la rentrée, et puis il est trop chou.
J'ai vu les photos, et effectivement, je comprends, c'est un très mignon garçon.
Il est très câlin, voilà, j'aime beaucoup.
Le parfait petit boy.
Exactement.
Ok, j'ai vu que tu voulais faire des études de médecine avant de te lancer dans la cuisine. Qu'est-ce qui a provoqué ce revirement?
Alors, j'ai eu un bac scientifique. Quand j'ai eu mon bac, je sentais que c'était pas fait pour moi. En fait, il manquait le côté fun.
D'accord.
J'étais assez forte à l'école, d'où le bac scientifique, mais ça m'a jamais intéressée plus que ça. Déjà, j'ai eu mon bac alors que je ne suis allée en cours que 2 mois.
Tu m'expliques comment?
En fait, j'ai failli me faire virer deux semaines avant le bac parce que je n'allais jamais en cours. En fait, je travaillais en même temps. J'avais pas d'intérêt plus que ça à l'école.
D'accord.
J'aimais ça, par contre, j'étais pas mauvaise élève, j'étais plutôt bonne élève, mais ça m'ennuyait profondément, quoi. Il y a rien qui arrivait à m'accrocher. Les cours que j'adorais, comme la chimie ou les cours de langue, j'adorais ça. Donc là, j'étais pratiquement tout le temps là. Mais les autres cours,
ça m'intéressait pas du tout.
Donc je n'y allais pas. En fait, j'ai jamais accepté le fait de perdre du temps pour des choses qui m'intéressaient pas. Donc je n'y allais pas. Je travaillais en dehors. Je faisais énormément de choses. Je gardais des enfants. Je travaillais dans un centre d'appel, tu sais, où on
remontait
les gens. J'avais beaucoup de d'emplois en même temps, quoi. J'ai toujours aimé ça, par contre, le côté très actif. Mais pour autant, j'aimais aussi le côté médecine, plutôt assez... Je pense que j'ai quand même une âme de scientifique. Je suis très cartésienne. J'aime bien les choses droites. J'aime bien apprendre des choses. Je suis très curieuse. Mais il me manquait le côté fun. Et je me suis dit, mais en médecine, jamais ça sera fun. Donc, je me suis quand même inscrite en fac. Sauf que je leur ai demandé une petite faveur. J'aurais demandé de me décaler mon inscription d'1 an. pour me laisser vraiment le temps de voir si c'était ça, quoi.
Ok, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Okay.
Bah, j'ai demandé, ouais. Ça a été accepté sur le moment, mais finalement,
t'as lâché.
J'ai lâché, et pendant cette année-là, donc j'ai travaillé, j'étais responsable d'une boutique de vêtements, mm-hmm. et en même temps, je passais énormément de tests dans des écoles, dans pas mal de choses pour mm-hmm. voir ce qui me plaisait vraiment. J'ai même fait des tests dans l'armée de l'air pour être météorologue, enfin, des choses assez folles, quoi.
C'est ça.
Mais je me cherchais, okay. vraiment, je me cherchais. C'est et vraiment... à ce moment-là, je me suis installée donc avec mon chéri mm-hmm. De l'époque, mm-hmm. Donc le père de mon fils, et en fait, j'ai commencé à cuisiner. Pendant cette année-là, parce que je n'avais jamais touché une casserole.
D'accord.
Ma mère faisait tout.
Ah, chanceuse. Ouais.
Chanceuse, oui et non, parce que du coup, quand tu t'installes, tu sais rien faire.
Comme quoi, tout est possible, puisque aujourd'hui, t'en as fait ton métier.
Complètement. Et un jour, je me souviens que j'ai invité des copines à la maison et je voulais leur préparer un truc vraiment à moi, pas acheter à la boulangerie. Mmh. Donc j'ai voulu faire des macarons. C'était ma première recette. Aujourd'hui,
tu t'es mis le top niveau des voilà, premières recettes.
Voilà, vers ça. Et j'ai fait des macarons. Et en fait, j'ai adoré le moment que j'ai passé en cuisine. Mais encore plus le moment où elles sont arrivées, où elles ont mangé ce que j'ai fait. Mmh. Je me suis dit, purée, mais c'est ça que je veux faire. Je veux faire un truc qui... moi, me fasse kiffer au moment où je le fais, mm-hmm. et qu'ensuite je le partage avec des gens et qu'on kiffe encore plus.
Carrément.
Donc, c'est resté dans un coin de ma tête. Bon, j'y ai pas pensé tout de suite vraiment officiellement, mais je me suis dit, bon, je fais mes tests, je trouve un taf pépère, entre ouais. guillemets, et après ça, quand j'aurai un peu de sous et tout, j'ouvrirai un petit truc, un petit boui-boui, où je ferai des petits gâteaux pour les gens. Mm. Et en fait, le temps est passé, donc du coup, je travaillais. Alors, j'ai annulé, du coup, mon inscription en médecine parce que c'était clairement pas fait pour ouais. moi. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je vais attendre d'avoir une première vie, entre guillemets, avant de kiffer, mm-hmm. si c'est ça que je veux faire,
ouais.
Fais-le, quoi.
Clairement.
Donc, je me suis inscrite dans une école de pâtisserie, c'était le CEPRA, qui me semble, à l'époque, mm-hmm. Qui proposait un CAP sur un an en alternance, pour ceux qui ont déjà eu un gros diplôme, enfin... un diplôme ah ouais, style bac ou
okay.
donc j'étais inscrite, j'avais trouvé mon patron, mm-hmm. Sauf que j'apprends que je suis enceinte.
Ah.
Voilà, donc alors mon enfant était voulu, hein.
Oui.
J'étais mariée du coup depuis 2 ans, mm-hmm. il me semble, ouais, j'étais mariée depuis presque 2 ans, ouais. Dès que je me suis mariée, on a tout de suite voulu avoir un enfant. D'accord. Je me suis mariée à 19 ans du coup.
D'accord, oui, ce que j'allais dire, mais t'as ouais. quel âge?
Là, j'ai 28 ans.
D'accord.
Maintenant. Et du coup, ouais, je me suis mariée à 19 ans. Mmh. Et donc, j'ai annulé mon inscription. Mmh. C'est probable parce que je me suis dit, gérer une grossesse ouais. et surtout que c'est physique quand même, la pâtisserie, je vais pas réussir. Et mmh. puis, ouais, j'ai pas envie de bâcler ça, quoi. Mmh. Donc, j'ai annulé mon inscription. J'ai bien annulé des inscriptions. On remarquera.
Ouais, mais c'est pour la bonne cause, parce que derrière...
C'est ça. Et je voulais vraiment kiffer ma grossesse. Mmh. Voilà.
Pas donc, mettre de pression.
Exactement. Mmh. Puis en plus, il me semble... Ouais, à l'époque, j'avais le chômage. Mmh. Parce que j'avais... j'avais le chômage à ce moment-là. Donc, je me suis dit, bon, j'ai le chômage. Ouais. Encore 2 ans. J'ai kiffé ma grossesse. Mmh. Et puis, on verra après, quoi. Donc j'ai eu mon fils. Sauf qu'entre-temps, je me suis dit, bon, bah, ce serait quand même bien de pas perdre trop de temps non mmh. plus. Quand mon fils est né, j'ai trouvé une formation par la mairie de Paris, mmh. Qui est une formation au CAP pour les adultes en 6 mois.
D'accord.
C'était en cours du soir. Mmh. Alors, c'était un truc sur concours, etc. Donc, je l'ai fait. J'ai été acceptée, donc j'étais contente. Ouais. Et j'ai pu passer du coup mon CAP quand mon fils, je crois, avait à peine 1 an. Donc j'ai dû commencer quand il avait 6 mois.
D'accord.
Et pendant les 6 derniers mois, j'ai passé ça et j'ai eu mon CAP du coup après que j'ai passé en candidat libre. J'ai fait pas mal de stages en pâtisserie. Et donc voilà, j'ai eu mon CAP. Suite à ça, les gens ont commencé à me faire des commandes, en fait.
Ouais.
À me dire, ah bah tiens, il y en a une en particulier que j'ai dans mon cœur, qui s'appelle Layla.
Ouais.
Que c'est une amie d'enfance, en fait, elle habitait près de chez moi. Mmh. Et un jour, elle me dit, ah mais c'est trop beau ce que tu fais, parce que je postais des petits trucs sur Instagram, des petites photos. Ouais. Quand je les regarde maintenant, elles sont dégueulasses.
C'était horrible. Le début.
Ah non, mais rien n'allait. Mais apparemment, elle aimait
ça. Ça plaisait. Écoute, il y avait des fans, c'est le plus important.
Il y avait des fans. Et elle m'a dit, écoute, au début, c'était des cupcakes, tu sais, les trucs.
Ouais.
On me dit, bah, j'aimerais te commander des cupcakes. Je dis, ah bon, mais, bah non, enfin, je te les fais.
Ouais.
Voilà. Elle fait, non, je tiens à te les payer et tout. Ouais. Je dis, bon, bah, ok, si tu veux. Et ça a commencé comme ça, donc ça a commencé par des petites commandes de cupcakes. Du coup, elle, pareil, elle en a parlé à ses amis, ça a fait le tour assez vite. Donc j'avais une petite base de clientes qui me faisaient quelques commandes par mois.
Okay.
Moi, je voulais encore rester à la maison parce que j'avais mon fils et je voulais pas trop aller vite, quoi. Donc j'ai eu ça, j'ai eu les petites commandes qui ont commencé à grossir. Entre-temps, en pâtisserie, quand je faisais mes cours du soir, j'ai rencontré une fille exceptionnelle qui s'appelle Nathalie Nguyen, qui avait fait Masterchef à l'époque, et j'ai eu un coup de foudre amical pour elle, c'est incroyable, et professionnelle aussi. Et elle avait un camion, un food truck. Qui s'appelait le camion bol, et c'est un food truck, tu sais, qui faisait des bobounes, des choses comme ça. Et un jour, elle avait besoin de monde en cuisine. Donc je l'ai rejoint dans l'aventure, et c'est elle qui m'a formée du coup en salé. J'ai appris énormément de choses, et j'ai appris surtout à gérer l'organisation de grosses commandes, de gérer aussi les coups de feu, surtout que dans un camion on a très peu d'espace, pouvoir travailler proprement, peu d'espace. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis restée à peu près un an avec elle. Et là, ce qui était bien, c'est que c'était pas tous les jours. Je la suivais vraiment sur les grosses prestas, les choses, les choses qui demandaient vraiment beaucoup de monde. Donc c'était très très cool. Je pense qu'elle a tout appris. Métier, quoi. Et elle, ça a été vraiment mon ange gardien pro. Suite à ça, alors par contre, j'ai plus trop de notion des dates. Je pense que ça faisait 2 ans à peu près que j'étais dans le métier. Un jour, elle m'appelle, elle me dit, écoute, avant ça, elle m'appelait aussi sur ses tournages. Je l'aidais, j'étais un peu ses secondes mains, je faisais ses petites prépas. Pareil, sur ses shootings, je l'aidais à faire des beaux dressages, des choses comme ça. J'étais vraiment son assistante sur pas mal de trucs. Mais du coup, j'ai appris trop de choses. Un jour, elle m'appelle, elle me dit, écoute, je viens d'avoir un coup de fil, c'est des gens de TasteMate qui arrivent en France. Ils m'ont contacté, elle me dit, mais je sais pas pourquoi, je sens que c'est pour toi. Je lui dis, bon, bah, ok. Elle me dit, bon, je vais trouver un moyen pour te les faire rencontrer, mais voilà, je te tiens en cours. Elle m'appelle quelques jours plus tard, elle me fait, écoute, j'ai trouvé un moyen, tu vas venir comme ma commis. J'ai pu négocier un tarif pour toi et tout. Je dis, ok, cool. Donc, elle me fait passer comme commis. Je fais 2-3 jours avec elle en commis. Je tombe amoureuse de l'équipe. Coup de foudre incroyable pour le métier, pour l'équipe, pour tout. Et un jour, je crois qu'elle ne pouvait pas faire un tournage. Il fallait faire, tu sais, les tournages mains.
Comme ce qu'on voit sur les vidéos, justement, TasteMate, d'ailleurs. La préparation de la recette.
Et donc, l'équipe me dit, oh, bah, attends, t'as des belles mains. Tu sais cuisiner. Tu veux pas faire des recettes et tout. Je dis, oh, bah, carrément. Donc, je leur propose des recettes. Et en fait, il s'avère que ces recettes ont cartonné.
Oui, j'ai vu quelques vidéos d'ailleurs.
Et du coup, ils m'ont proposé, suite à ça, parce que Nathalie avait d'autres activités, et commençait à être un petit peu juste en temps. Donc au début, on était les deux seuls à faire ça. Et ensuite, elle a dû arrêter parce qu'elle avait beaucoup trop de taf ailleurs. Donc moi, j'ai repris un peu le truc où je faisais pratiquement toutes les vidéos. Après, il y a d'autres chefs qui venaient pour des choses plus spécifiques. Mais la plupart des vidéos qu'on voit de TasteMate, du coup, ce sont les miennes. Et ils m'ont proposé aussi de faire des vidéos un peu plus incarnées, où du coup, on me voit, et puis là, j'ai un coup de foudre pour le métier. Pareil, mes vidéos ont très bien marché, alors que j'étais l'une des seules inconnues. J'ai la révélation, je suis tombée amoureuse du métier de la vidéo, en fait. Et puis même, enfin du coup, mes vidéos ont très, très bien marché, parce que
je
l'attendais pas. C'est là où j'ai commencé déjà un peu plus à me mettre pas en scène, mais à me montrer. Moi, j'ai jamais eu une grande confiance en moi en général et physiquement et professionnellement, parce que déjà je me suis jamais sentie légitime vu que j'ai un parcours atypique. En fait, j'ai jamais choisi les. Enfin, c'est pas que j'ai jamais choisi. J'ai toujours pris les projets. Par contre, j'ai jamais eu peur d'accepter un projet. Mais j'ai pas eu de formation classique. Donc c'est compliqué. Je pense en tant que femme, c'est très féminin. C'est comme ça.
Ce manque de confiance, le fameux syndrome de l'imposteur.
Exactement. Mais totalement. Mais déjà quand je raconte généralement mon parcours, je dis non, mais moi je suis une arnaque. Je suis comme commis.
Tu sais faire ce que tu fais aujourd'hui.
Oui, compris parce que je savais le faire et que ça marchait bien, que les chiffres étaient là. Donc normalement.
Tu mérites ta place.
Normalement, j'ai ma place. Mais voilà. Donc Tastemade s'est arrêté, enfin, pour ma part, en juillet dernier, enfin, pour ma part et pour la part de tout le monde, ils ont arrêté les tournages en France, en fait.
D'accord.
Ils font les tournages à l'étranger maintenant. Mais je travaille toujours avec la boîte de production. D'accord. Tournée.
C'est le sixième étage, c'est ça?
Alors, okay. À l'époque, c'était full time.
D'accord.
Mais c'est, une partie de full time, c'est divisé en sixième étage, et du coup, je continue les tournages.
D'accord. Ok.
Voilà.
Super. Oui, donc t'as fait des petits plateaux télé, j'ai vu.
Ouais, j'ai fait des petits plateaux.
La quotidienne.
Exactement.
Ouais.
J'ai fait des petits plateaux. Pareil, on m'appelait en tant que expert food.
Ouais.
Donc c'est très très cool à faire. Alors après, je suis moins télé. Parce que je trouve que c'est trop cadré.
Ouais.
J'ai besoin qu'on me laisse un peu.
Un petit peu plus de liberté aussi.
Ouais, ouais. Un peu plus de liberté. Mais j'adore, ouais. J'adore la scène, j'adore.
On voit, si tu dégages. Le côté peps, comme je disais, tu donnes la joie, quoi, clairement, à travers tes vidéos, donc ça cool. Se comprend. Je pense effectivement, la télé, c'est peut-être pas non plus.
Ouais, c'est un peu trop cadré pour moi. J'ai une très mauvaise expérience télé. J'ai fait Masterchef.
Ah, t'as fait Masterchef?
Oui, une journée.
Ah ouais.
C'est très mal passé. Ils sont foutus.
C'était quoi? C'était sélectionné ou c'était la présélection?
Alors en fait, il y a plusieurs présélections, ouais. En fait. En gros, c'était la dernière saison. Alors moi, déjà, il faut savoir qu'ils m'ont contacté sur les réseaux et qu'ils m'ont limite, pas harcelé, mais limite pour que je le fasse. Parce que je voulais pas du tout.
Enfin, ouais, ça t'intéressait pas.
À la base,
pas.
Moi, j'étais pâtissière. En plus, à l'époque, je voyais pas ce que j'allais faire chez Masterchef, quoi. Mais comme mon amie Nathalie sortait de Masterchef, elle m'a motivée, elle m'a dit « Non, mais si, fais-le, tu verras, ça va être cool. » Mais en plus, s'ils te contactent, c'est qu'il y a un intérêt. Ouais. Fais-le, quoi. Je dis bon, ok, je me laisse prendre un peu au jeu, je le fais. Alors déjà, ils m'ont contacté, je sais plus en quelle année, et ça s'est fait déjà un an après, parce qu'ils ont eu énormément de problèmes de mise en place.
D'accord.
Je crois que la production a totalement changé. Enfin, il y a eu énormément de problèmes de base, quoi. Et pendant cette année-là d'attente, ils ont pas arrêté de me contacter en me disant ah, mais j'espère que t'es toujours là, j'espère que tu es toujours là. Pour le moment, je suis là. Après, on verra, quoi. Le moment du tournage. Alors, on avait eu des présélections déjà dans les studios où tu fais goûter ton plat à un chef, où tu fais une petite interview, etc. Donc, j'ai passé ce cap. Et ensuite, un jour, il m'appelle, il me disait « Ah, ben voilà, demain, faut qu'on aille à Marseille. » Enfin, pas demain.
Ouais, faudrait
le tournage se fera à Marseille. Alors déjà, il fallait payer son billet. Chose que je ne referai absolument plus jamais de ma vie. Mais bon, à l'époque,
je savais pas.
Ils me disent « Bon, bah, tu viens à Marseille, on paye tout le reste sur place. Et voilà, si t'es sélectionné, tu restes. Si t'es pas sélectionné, tu pars. Okay. » Donc, je vais à Marseille. Ça se passe très très mal, le tournage horrible. Alors déjà, c'était en extérieur, ils nous ont pas forcément prévenu que ça serait en extérieur. Donc on était à Marseille au mois de mars, il y a le Mistral en fait.
Ah oui.
Et en bord de plage.
Ah oui, d'accord.
Sur la plage en fait.
Pratique.
Donc il y a eu des rafales de vent incroyables et on était 300 personnes pour 30 places.
Waouh.
Donc en fait tout a été malsain dans la façon de faire. Et ensuite, au moment du tournage, alors déjà, fallait qu'on ait tout préparé chez nous. Et qu'on fasse juste un dressage, en fait, de dernière minute sur place. On n'avait pas du tout le moyen de cuisiner. Pas du tout.
Bah, sur la plage, faut le faire.
Il n'y avait rien, il n'y avait pas de plaque de cuisson. Il n'y avait vraiment rien à dispo, c'était du dressage froid.
D'accord.
Alors, leur épreuve durait 4 heures. 3 ou 4 heures, je ne sais plus, mais bon, c'est un dressage, en fait.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
En 10 minutes, j'avais fini, en fait. Ouais. Et j'avais fait une sorte de dessert avec... je ne sais plus, il y avait de la coriandre, il y avait de l'ananas, il y avait un petit sablé que j'avais travaillé, que j'avais cuit plusieurs fois et tout. Et en fait, alors déjà, c'est pas le jury qui venait goûter, c'était d'autres personnes qui venaient goûter. Et le mec, je m'en souviendrai, a pris juste une meringue en déco sur mon truc et voilà, il est parti. Et en fait, ils avaient une liste avec des gens déjà entourés.
Ah, donc t'es là, en fait. Ils avaient déjà fait leur présélection avant, quoi.
Ils avaient tout fait, enfin, en fait, c'était que du fait. Et tu le sentais tellement.
Ouais.
J'ai vraiment été choquée de cette journée.
Ouais.
On avait froid. Mais en fait, il y avait tellement de rafales de vent que parfois, on se cachait sous les tables.
Ah ouais, c'était Koh-Lanta, le truc.
C'était Koh-Lanta, en fait. Ils nous ont pas dit. Ils nous ont pas prévenus. On n'a pas été préparés à ça. On n'a pas eu de repas chaud. On a eu un pauvre sandwich le midi. Enfin, tu vois, c'est des choses bêtes, mais je me suis dit, mais où est le respect?
Ouais.
Juste le respect des gens. Moi, j'ai
des
beaucoup de mal avec le manque de respect.
Ouais.
C'est le genre de choses dans la vie qui me rend fou. Ouais. Qu'on manque de respect à moi ou aux autres, mais qu'on manque de respect aux gens, c'est inconcevable. Ouais. Donc c'est pour ça que je te dis la télé.
Ouais. Après, ça t'a un peu dégoûté, quoi.
Bah, ça m'a un peu dégoûté. On m'a contacté après pour faire plein de trucs, style, je sais pas, un dîner presque parfait.
Ouais.
Je dis, non, laissez-moi.
Non, vraiment. Je fais mon truc de mon côté.
Ouais, voilà. En fait, je préfère, faire ma vie. Après, demain, je crache pas non plus dessus. S'il y a un truc vraiment cool, où la production est intéressante. Pourquoi pas, avec plaisir. Je connais des gens qui bossent en télé et qui sont très respectueux. Donc, non.
Oui, heureusement que tout le monde n'est pas.
Heureusement. Mais, là, je l'ai quand même bien en travers. Ouais. Je me suis dit, ok, d'accord.
Ça se comprend.
Ok.
Ok.
Et voilà. Donc, quand Tastemade s'est arrêté, moi, j'avais déjà une petite activité de traiteur que j'avais en parallèle de Tastemade avec des clients, du coup, assez réguliers.
D'accord.
Et, donc, c'est ce que j'ai fait. Et il y a pas très longtemps également, à un moment, j'étais fatiguée de l'entrepreneuriat.
Ouais.
En fait, j'arrivais plus à réfléchir à ce que je voulais faire.
OK.
Parce que je me suis dit, OK, c'est cool. Là, je réponds à des offres. Mm-hmm. J'ai des clients. Mais sauf qu'il y a des phases où tes clients ne t'appellent pas. Mm-hmm. Parce que, il y a des creux comme là au mois d'août ou, c'est des choses qui sont normales. Mais sauf que moi, je fais quoi? Parce que j'ai pas d'aide. Donc quand
t'es
je travaille
pas accompagnée, t'as pas de
j'ai pas de déjà je vis seule donc j'ai pas de mari qui est en background et qui peut payer le loyer si j'ai pas de sous quoi. Donc je me suis dit et puis à un moment ça devenait vraiment problématique, je commençais à faire enfin mon corps commençait à me dire arrête. Et puis j'avais des blocages physiques enfin genre mes hanches se bloquaient,
l'esprit sont
complètement liés, et j'ai été voir un ostéopathe qui est un peu qui travaille beaucoup avec les nerfs, et il m'a dit en fait t'as un voyant nerveux qui est tout le temps allumé, enfin en fait même quand tu dors ton cerveau ne se repose absolument pas, donc et en fait j'étais épuisée physiquement, moralement, tout ce que tu veux, j'étais épuisée, dès que je pouvais dormir je dormais, j'arrivais plus à rien faire parce que j'en pouvais plus quoi, et je me suis dit bon bah je vais trouver un taf entre guillemets tranquille, juste pour poser mon cerveau quelques mois, et ensuite ça repartira parce que par contre l'entrepreneuriat, je sais que c'est fait pour moi.
Et,
il fallait que je me pose. Du coup, j'ai pris un petit boulot de, un petit boulot, c'était un boulot tout à fait normal. Hein.
Ouais.
En plus, c'était dans mon domaine parce que c'était de l'animation culinaire pour le groupe Lagardère et je faisais ça à l'aéroport. Donc en gros, on avait des marques de, en plus c'était principalement des belles marques de luxe qui nous donnaient des produits. On devait créer des recettes. C'était quand même hyper créatif. Moi, on me laissait un champ libre. Je mettais de la musique, je dansais, en cuisinant. C'était incroyable. Enfin, je me suis quand même beaucoup amusée.
Éclaté,
je me suis amusée. Mais après, c'est vrai que le côté horaire fixe, c'est j'ai
ça.
Du mal. C'était loin de chez moi. Du coup, je perdais beaucoup de temps dans les transports. Et ça, à un moment donné, c'était...
Ça use.
Là, ouais, c'était vraiment un manque de sommeil. Puis en plus, j'avais pris un boulot où je travaillais le week-end, justement parce que j'ai eu mon fils la semaine. Et en fait, j'avais aucun jour où je me reposais.
Ouais, c'est ça. 7 jours sur 7.
Ouais, 7 jours sur 7. Et là, je me suis dit, finalement...
Ouais.
Donc, j'ai fait ça 4 mois. J'ai quand même tenu 4 mois. Et ça s'est arrêté, mais je suis très contente d'avoir vécu ça. Et du coup, maintenant, j'ai mon petit projet...
Let's cook tonight.
Let's cook tonight. sur lequel je bosse.
D'accord. Ok, bon, on va y revenir. De toute façon, on va
parler
du projet. Quelle a été la réaction de ton entourage quand tu as décidé de te lancer en fait à ton compte?
Bizarrement, ça s'est tellement fait de façon fluide que j'ai pas eu de...
Parce que tu étais destinée quand même à faire... destinée, entre guillemets, à faire des études de médecine.
Ouais.
Voilà, donc tu t'es réorientée.
Alors déjà ça, mes parents m'ont très mal pris.
Ouais. Je me disais bien, comment ça se souvient?
Ouais, mes parents m'ont très mal pris parce que... En fait, dans la famille, j'étais la première de toute ma famille à avoir un bac scientifique, à avoir, entre guillemets, genre une destinée.
Ouais, c'était la fierté.
Mes parents me voyaient déjà docteur.
Ouais.
Et en fait, non, du jour au lendemain, j'ai dit non, je vais faire un CAP.
Ouais. Et là.
Et ils ont pas compris.
Ouais.
Vraiment. Maintenant, ils comprennent totalement. Ils sont très fiers
ils
de moi,
fiers,
je suppose. Hein. Ils m'ont jamais dit. Quand tous les parents... Mais je le vois, donc... Mais sur le moment, c'était compliqué.
C'était dur.
C'était compliqué, mais en même temps, en fait, je suis une personne tellement... C'est pas que je... En fait, j'aime bien avoir l'avis des gens, mais je le prends pas en considération.
Je vois tout à fait.
Tu vois? je vais te dire, en fait, ouais. je suis très transparente. Ouais. Je vais te dire, voilà, écoutez, ça va se passer comme ça. Mmh. Je vais faire ça. Ouais. Voilà, je vous demande pas votre avis. Je vous le dis. Soyez contents.
Je vous laisse
quand j'ai un truc en tête, en fait, je suis tellement obstinée que quoi que tu dises, ça change rien. Ouais. Vas-y, enfin, vraiment. Donc, ouais, j'aurais pas forcément laissé l'occasion de me donner leur avis sur ça.
D'accord.
Et je l'ai fait. Et puis, je me suis pris des claques, des trucs. Mais c'est pas grave. En fait, je pense qu'ils ont vu que je prenais les choses tellement bien qu'ils le comprennent. Et puis, puis ma mère, elle m'a beaucoup aidée, ne serait-ce que financièrement, parce que des fois, j'ai des clients qui ne me payent pas tout de suite.
Ouais, oui.
Du coup, bah, j'ai des creux. Mmh. Et heureusement que j'ai mes parents qui sont là pour m'aider un petit peu, parce que sinon, il y a des mois où je suis vraiment, où c'est vraiment compliqué. Quoi. Ouais. Donc, non, maintenant, ils l'acceptent totalement. J'ai pas eu de frein... Même au niveau de mon entourage amical, mon ex-mari, il comprenait pas au début. En fait, il a mis du temps avant de comprendre que j'étais sérieuse dans mon projet.
Pour lui, c'était plus un hobby, quoi, entre guillemets.
Voilà. Ouais. En fait, il comprenait pas. Déjà, quand il m'a connue, bah, je devais faire médecine.
Ouais.
Il a pas compris le revirement tout de suite. Et je pense que c'est aussi un peu pour ça qu'on s'est éloigné au fur et à mesure du temps, parce que finalement. Là, j'ai des vrais projets. Puis, je suis tellement animée par... J'ai besoin d'être animée par ce que je fais, sinon, j'y arrive pas. Mmh. Et lui, il était un peu... Enfin, il est toujours moins comme ça. Mmh. Donc, je pense qu'à un moment, on a plus trop la même vision des choses.
Il faisait quoi, lui, à ce moment-là?
Alors, à l'époque, parce qu'on était jeunes, il était en études de droit.
D'accord.
Et après, pareil, lui, il a fait 10 000 trucs. Mais c'est vrai qu'il était moins animé que moi. Mmh. Maintenant, il a pas de... Voilà, il travaille. Mmh. Mais le kiff fait pas partie de sa vie, quoi.
Ouais. Ok. Ouais, toi, on a compris que c'était.
Ouais, c'est
très important.
Non, je n'y arrive pas. C'est incroyable. J'ai tellement de facteurs qui font que même si j'éprouve pas de respect, c'est bête, hein, pour la personne avec qui je travaille, que ce soit en client, je n'y arrive pas. C'est vraiment, je vais faire n'importe quoi. Je ne vais pas y arriver. Donc, je préfère ne
pas le faire.
Voilà.
Ok. Quel a été ton plus grand challenge lorsque tu as décidé de te lancer à ton compte?
En vrai, enfin, ouais, le plus grand challenge,
t'en as tous les jours.
Si t'en as tous les jours, mais c'est vraiment des phases. Il y a des moments où tu dis, mais qu'est-ce que je vais manger le mois prochain? Enfin, vraiment, hein. T'as des mois qui sont tellement compliqués, surtout au début, où tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Puis moi, bon, alors ça va être très personnel. Mon ex-mari a fait de la prison. Mon fils avait, en fait, quand j'ai fait mon CAP, il est parti en prison à ce moment-là, donc je me suis retrouvée totalement seule, sans argent du tout, et sans rien. Mmh. Donc là, je me suis dit waouh, je fais quoi?
Et là, t'étais déjà lancée, enfin t'étais déjà à ton
compte en plus. Je passais mon CAP du coup. Mais pendant que je passais mon CAP, j'avais déjà des petites commandes. Mmh. Et ouais, dès que j'ai eu mon CAP, qu'il fallait que je travaille, là, je me suis dit en fait, je n'ai absolument pas le choix parce que je n'avais aucune aide sociale, j'avais
pas de ressources.
Aucune ressource, et je me suis dit, ouais, faut que mon fils mange, en fait, vraiment.
Ouais, clairement.
Donc, c'était vraiment plus des besoins. Mes gros challenges, ça a été toujours financier, au début. Enfin, même maintenant. Hein.
Oui.
Mais maintenant, en fait, j'ai pris l'habitude. Et je sais, alors, bizarrement, je ne m'inquiète plus quand je n'ai rien. Enfin, c'est bête, hein,
comment
mais...
Comment tu fais pour ne plus t'inquiéter quand tu n'as rien?
Mais je pense qu'en fait, j'ai tellement vu... Là, ça fait quand même... Bah, du coup, je peux même dire 6 ans, parce que mon fils venait juste de naître quand j'ai commencé. Tous les mois je m'inquiète et que finalement je m'en sors, je dis mais en fait à un moment donné de t'inquiéter quoi.
C'est ça.
Donc et maintenant là ça fait quelques mois depuis que j'ai travaillé pour Lagardère où je m'en fiche mais totalement. Et finalement ça va.
Ça passe.
Bah ouais, il y a des moments où tu dois te restreindre.
Ouais.
Forcément parce que ça arrive pas tout de suite que les clients mettent du temps à te payer. Mais finalement,
ça passe.
Au pire, je vais manger chez ma mère.
Heureusement que maman est là.
Je me suis invitée par des amis. Enfin voilà, je squatte chez mes potes.
Donc voilà, déjà d'être bien entourée.
Toujours, ouais, par contre, être entourée, je pense que c'est le plus important. Que ce soit au niveau de la famille ou même des amis. Moi, j'ai des amis en or que j'harcèle parfois parce que je suis en panique sur des projets ou des trucs. Mais ouais, se faire entourer... C'est un truc que j'ai appris à faire avec le temps, ne pas avoir peur de demander de l'aide.
Oui.
Vraiment.
Oui, clairement.
Au début, je le faisais pas, je restais dans mon coin. Déjà, pour te dire, quand mon ex-mari est tombé en prison, j'ai mis plus d'un mois à le dire à mes parents.
Ah oui.
Donc, je suis restée un mois, comme ça. Bah, mes beaux-parents le savaient, forcément, oui. Parce que c'est leur fils. mais, pendant plus d'un mois, j'étais...
J'osais pas,
parce que j'avais un peu honte, hein, on va pas dire, c'est un petit peu situation que j'avais pas imaginé dans ma vie. Mais, c'était compliqué, et puis même là, ça fait vraiment très peu de temps que j'ose demander, même des fois quand j'ai, c'est bête, hein, mais quand j'ai des creux de boulot, avant je n'osais jamais, j'ai jamais démarché de ma vie, et je me suis toujours, enfin c'est pas... Je me suis toujours dit, ah, bah, si on veut, entre guillemets, on viendra me voir.
Oui.
Sauf que non, ça ne se passe pas comme
ça.
On
ne sait même pas que tu existes.
Mais c'est surtout
c'est bien
ça,
dommage.
En fait. C'est qu'on ne sait pas que tu existes, qu'il y a énormément de monde qui font...
Il faut se démarquer, quoi.
Qui font la même chose, même si c'est un peu différent, mais qui font la même chose. Et ouais, les gens ne te connaissent pas, en fait. Donc maintenant, déjà, systématiquement, quand je me présente, je présente ce que je fais, mais à n'importe qui, en fait. Même pas forcément en situation de
Les opportunités
client.
Peuvent se créer à n'importe qui.
Exactement. Mais c'est ce que j'ai vérifié vraiment avec le temps. La plupart des gens qui m'ont contacté sont des personnes qui ont entendu parler de moi par des amis ou qui n'ont rien à voir
à
avec
force
le milieu.
Du
complètement. Donc maintenant, ouais, j'ose plus, enfin, grâce à toutes ces galères, du coup. Demander de l'aide, dire aussi, hey, je suis là. En fait, c'est ça, des fois, quand j'ai des creux, je fais, bon, j'appelle mes anciens clients, écoute, si t'as besoin, en ce moment, je suis dispo, n'hésite pas, quoi. Voilà.
Ok.
Sans être lourde, sans être.
Super. On parlait tout à l'heure de ton côté positif. Et du fait que les obstacles t'amenaient souvent à te, enfin, souvent même t'amènent à te surpasser au quotidien.
Complètement.
C'est quoi ta
Je pense que de base, déjà, je suis très positive dans...
De nature.
De nature. Ma mère est très positive également, donc je pense qu'elle m'a vraiment formatée. Mais en fait, c'est ce que j'ai vraiment pu vérifier dans tout ce qui s'est passé. Par exemple, bah, je te parlais de la prison. La prison, pour moi, ça a été une révélation. J'ai vu, en fait, de quoi j'étais capable. Par exemple, un truc bête. Donc, il s'est fait arrêter. Le lendemain, parce que j'avais un appartement sur Paris à ce moment-là, que je n'avais, ben, je n'avais aucune ressource, donc je ne pouvais pas le payer. Le lendemain, mon appartement était sur Airbnb, j'avais déjà tout préparé. En fait, dans chaque situation de ma vie, j'ai un plan B et un plan C. Mais systématiquement, mais sur, même sur des choses qui roulent. Quand ça roule, j'ai toujours un plan B, un plan C. Et j'ai toujours trouvé, et en fait, ce côté, ok, je veux toujours savoir ce qui va se passer, ça me stimule de me dire, ok, là, il y a une galère, c'est pas grave, je vais trouver une solution. Ça me... Ouais, ce côté, trouver des solutions. J'adore anticiper. Pour autant, je suis pas une maniaque du contrôle. Mais j'aime bien juste avoir en tête, ok, il se passe ça, mais c'est pas grave, il y a ça, il y a ça. Tranquille.
Super.
Tu vois, on laisse couler le truc et il y a pas de problème. Et je pense qu'en fait, ouais, ça s'est fait. En fait, j'ai tellement appris de mes grosses épreuves. J'ai aussi beaucoup de choses familiales, des choses qui ont été dures. Mais à chaque fois, je me suis dit, ok, il y a eu ça de dur. J'aime bien me faire un petit bilan après, tu vois. Mais qu'est-ce que j'en ai retiré? Ok, il y a eu ça. J'ai vu cette personne que je n'aurais jamais vue s'il y avait... Tu vois, il y a toujours des choses vraiment très positives d'un moment qui peut être très, très dur. Très, très dur. Donc, ouais, j'aime bien, en fait, moi, je vois le verre à moitié plein.
Ouais, exactement.
En fait, c'est juste ça. C'est que dans chaque situation très compliquée, je me dis, ok, mais qu'est-ce que t'en as retiré de positif? En fait, le négatif, je le vois même pas.
Ouais. Tu l'occupes limite presque. Ouais.
Mais complètement. Ça fait pas partie de ma vision des choses. Donc il y a ça, et puis comme je te disais, ça me stimule de me dire, ok, mais quelle solution. Des fois quand j'ai des prestations, c'est bête, et j'ai une petite galère, limite je suis contente, tu vois, je me dis, hé, hey, je peux trouver une solution à ça.
Je suis capable de le faire.
Je suis capable. Et en fait, t'es tellement plus satisfait de toi. Mais après, tu te dis, ok, j'ai géré. J'ai eu une grosse galère, mais j'ai géré.
Carrément.
Donc, ouais, c'est... Voilà.
J'aime cette philosophie.
Ouais.
Tu fais partie du collectif Nana de Paname.
Oui.
J'aimerais bien connaître... Alors, je sais un peu ce qu'elles font. Je les suis aussi sur Insta. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et me dire un peu comment tu es impliquée, justement, dans...
Complètement. Alors, les Nana de Paname, donc, il y a un collectif absolument dingue avec des femmes qui sont toutes très inspirantes, très différentes. Il y a des artistes, il y a des personnes aussi qui ont des emplois, qui ont des emplois même très... on en a une qui est adorable, qui travaille chez Google. Il y a beaucoup de choses, des maquilleuses, il y a des foodistas aussi comme moi, on est nombreuses. Alors déjà, moi, c'est un collectif que j'admirais depuis des années. Ça fait bien 2-3 ans que j'assiste à leurs événements, etc. Et je me souviens d'un truc drôle. En fait, tous les ans, je fais un dîner ou un goûter avec des amis très proches qui sont soit entrepreneurs, soit artistes, etc. Et on se fait une sorte de bilan de l'année passée et nos objectifs pour l'année à venir.
D'accord.
Et c'était donc pour l'année 2018, donc l'année dernière. Et je leur avais dit, écoutez, moi, les meufs, cette année, mon objectif, c'est d'être
une nana de Paname.
Je les aime trop. Et je veux en être, quoi. Mm. Et c'était très drôle parce que quelques mois après, Chloé, donc, je la voyais du coup régulièrement à leurs événements. Elle m'a dit, ah, mais faut qu'on se voit, faut que tu fasses partie du crew et tout. J'étais
Alléluia.
Non, mais j'étais trop contente. Mm. Et en fait, je les aime tellement parce qu'elles sont d'une ouverture d'esprit, mais toutes. Et c'est des vraies rencontres. Enfin, je suis vraiment amie avec beaucoup d'entre elles. Là, on vient de passer un week-end. C'était notre premier week-end de Nana.
Ouais.
C'était incroyable. Ouais. J'ai pu cuisiner pour elles. Ouais. On a pu avoir vraiment le temps de parler. Enfin, c'était fou. Et du coup, donc pour en revenir à ça, donc il y a les Nana de Paname, le collectif, et il y a aussi une agence événementielle qu'elles ont, où elles créent de grosses OP. Par exemple, elles ont fait une OP avec Courir et Adidas il y a très peu de temps, où elles ont créé elles ont créé des baskets, elles ont créé une communication, elles ont créé elles sont occupées de tout en fait. Elles ont créé une soirée pour elles, pour cet événement. Enfin, c'était vraiment un truc assez dingue, c'était magnifique. Et en fait, l'idée dans cette agence, c'est aussi de faire travailler un maximum de Nana de Paname. Moi, elles m'ont appelé déjà régulièrement pour faire du traiteur. Sur cette OP, justement, avec Courir, il y avait les girls pop qui faisaient la scéno, il y avait les maquilleuses du crew. En fait, c'est vraiment une idée de... Ok, on met nos forces en commun et on va conquérir le monde,
enfin
tout ensemble. C'est ça. Alors c'est et ce que j'aime également, c'est que c'est féministe de base. Mais, de toute façon, je considère qu'on est tous féministes, mais pas à outrance. Tu vois, pas dans le côté sectaire.
Tu vois ce que je veux dire? Exactement.
Je me sens pas. En fait, je sens juste qu'elles sont toutes hyper ouvertes d'esprit, qu'on peut leur parler de tout. Sans aucun tabou, mais voilà, sans plus. Déjà, dans les Nanas de Paname, bah, faut savoir qu'il y a un homme.
Il y a un mec, oui, j'ai vu ça.
Il y a un mec très drôle qui est, si t'écoutes ça, Edouard, qui est rappeur à César.
Ah, carrément. C'est bien de savoir ça.
Mais voilà, enfin, en fait, on n'est pas du tout dans le... Et c'est ce que j'aime profondément, parce que moi, j'ai du mal avec... En fait, j'ai du mal avec le fait de défendre une cause de façon agressive.
Oui.
Le message, quelle que soit la cause. Voilà.
Pas forcément de la meilleure
manière. Exactement. Mais là, en fait, on montre juste ce qu'on fait, qu'on le fait avec amour, qu'on le fait avec ouverture d'esprit. Et voilà.
Et puis, il y a de l'entraide, quoi. Ça, c'est beau.
Et il y a énormément d'entraide. On a un groupe, un petit groupe WhatsApp de Nana. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on peut parler de toutes nos problématiques. Quand on a des soirées, je sais pas, des soirées qu'on a besoin de remplir ou des choses, les nanas sont là pour nous aider. Donc il y a un vrai, c'est vraiment de l'entraide, quoi. C'est moi, je les considère comme mes c'est vraiment des amis. J'ai une profonde affection pour elles, tu vois. Donc je suis tellement contente de ce crew. Et avec ça également, on se réunit tous les mois pour faire un petit bilan de nos projets perso, des projets du collectif, comment on peut s'aider, comment on peut répondre aux problématiques de chacune. C'est vraiment très concret, en fait. C'est pas juste on fait des photos, on se voit à des événements et basta. Non, on est vraiment impliqués chacune dans le process, quoi.
Ok. Alors, on va rentrer dans la partie un peu plus perso, entre guillemets. Ma question, c'est comment tu arrives à équilibrer justement entre ta vie d'entrepreneur, ta vie de maman en plus solo, et ta vie de femme, justement, profiter un peu de ta vie sociale, faire des choses sympas, partir en week-end avec des copines, aller boire un coup, comment tu fais?
Alors déjà, j'ai la chance d'avoir ma famille, donc pas très loin. Donc en fait, ma répartition est simple. Déjà, dans ma vie, j'adore compartimenter les choses. J'adore...
Bien organisé.
Voilà. Mais je pense que de toute façon... On n'a pas le choix d'être organisé, c'est obligatoire. Donc déjà, moi, dans le process de séparation, j'ai mon fils toute la semaine et mon ex-mari, là, tous les week-ends. Donc déjà, ça veut dire que tous les week-ends,
je suis libre. Maman peut faire la fête.
Donc déjà, ça, c'est assez. Donc je profite, en fait, le week-end, en gros, je fais tout ce qui est... chiant et chronophage au niveau du boulot, comme l'administratif, etc. Je le fais le week-end généralement, surtout quand mon fils a pas école, parce que du coup la semaine c'est impossible. Donc là, pendant les vacances en l'occurrence, voilà, c'est le week-end où je travaille le plus.
Ouais.
Je sors avec mes copines, je vois tous mes rendez-vous que j'ai besoin de fixer et qui sont pas forcément professionnels, que je peux caser le week-end, je les case le week-end. Donc voilà, ma vie perso se fait le week-end. Et la semaine, du coup, bah comme mon fils est à l'école, généralement un truc simple, je dépose le matin à l'école, je vais faire un peu de sport, au moins deux fois par semaine, parce que sinon je tue des gens.
T'as besoin de ça, quoi.
Pour, ouais, j'ai vraiment besoin de sport. Je sens physiquement, si je fais pas de sport, je perds patience. Donc, deux fois par semaine, le matin, généralement, je fais du sport. Après, je fais tout ce qui est chiant avant qu'ils sortent de l'école. En gros, ma vie pro se fait avant qu'ils sortent de l'école. Quand j'ai des prestations, il finit à 16h30. Après, je l'ai mis dans une ville à côté où... en fait, je l'ai pas mis dans ma ville à l'école. Je l'ai mis dans une autre ville, juste à côté de ses grands-parents.
D'accord.
Du coup, eux peuvent le récupérer quand j'ai quand j'ai besoin. Donc, mes jours de prestation, du coup, c'est eux qui prennent le relais. Et voilà comment je m'organise. Après, de toute façon, le soir, en semaine, je suis à la maison. Je suis couchée à 20h30.
En mode mamie.
Ouais, dans la vie, pour le coup, je suis vraiment une mamie. La seule soirée que je fais, c'est le dimanche après-midi qui commence à 16h.
Café Barge. Je l'ai pas encore fait cette saison, mais j'y compte bien.
Voilà. Ouais. C'est le seul truc, parce que pour le coup, quand je rentre trop tard, c'est impossible, j'arrive pas à récupérer. Ouais. Je suis déjà de base, t'es fatiguée. Ouais. Là, c'est mort. Donc, l'été, faut savoir que de mai à septembre, je suis au Café Barge tous les dimanches.
Pour ceux qui connaissent pas, le Café Barge, c'est une péniche.
C'est sur le quai d'une péniche,
en fait, sur les quais de Bercy. Et en fait, tous les dimanches, ils font une animation, donc de 16h à 1h, c'est ambiance hip-hop, R&B, funk, il y a de la bonne bouffe, il y a de la bonne musique, tout ce que t'aimes en fait, quoi.
Exactement.
Et des gens cool, donc donc tous les dimanches de l'été, pour celles qui sont sur Paris, allez-y, c'est juste super, quoi.
Et vous m'y retrouverez forcément. Donc voilà, ça c'est mon petit plaisir de l'été. L'hiver, du coup, j'hiberne. Mais je fais des... Par contre, j'aime bien faire des petits restos. Après, en semaine, ça peut m'arriver d'en faire quand j'ai vraiment, pour le coup, ou des personnes à voir à tout prix qui sont sur Paris, qui sont pas sur Paris, qui sont de passage. Mais sinon, j'essaie de caser quand même tous mes à côté le week-end.
D'accord.
J'aime pas trop... Après, comme toute maman, je culpabilise.
Oui, ça c'est... Je pense que...
Voilà.
On se sent toutes concernées.
C'est ça. culpabilise tout le temps, mais bon, à un moment donné, je dis bon,
Okay, il faut vivre aussi un peu, quoi.
Ouais, voilà. Maintenant, j'ai quand même moins de scrupules parce que je sais que quand j'ai mon fils, je suis à fond avec lui.
Ouais.
Je suis quand même contente parce que je peux le récupérer hyper régulièrement à l'école. Donc, ça va.
Ouais.
On passe des moments ensemble. Généralement, quand je récupère à l'école, on va chez ma mère boire un café.
Ouais.
Donc, on passe des vrais moments familiaux. Okay. Donc, j'essaie de moins culpabiliser. Okay. Mais j'ai la chance d'être entourée.
Ouais. C'est sûr que ça aide.
Ouais, beaucoup.
Et comment tu passes du temps avec Wayan? Tu fais des activités? Bon, je suppose que vous cuisinez, j'ai vu ça. J'ai vu que
alors,
tu fais des petites recettes.
Parfois. Oui, mais... Faut savoir que mon fils est hyper compliqué. Genre la frustration à son max. Alors là, ça commence à se calmer.
C'est peut-être l'âge aussi.
Apparemment, enfin, j'avais vu une nana, je sais plus où elle bossait, vraiment sur les habitudes alimentaires. Elle me disait que c'était normal que chaque enfant avait une phase qui pourrait durer plus ou moins longtemps. Mais en gros, mon fils, jusqu'à ses 2 ans, il mangeait absolument tout.
Ouais.
Et à partir de 2 ans, plus rien.
Okay.
Mais vraiment, plus rien.
Revirement de situation.
Revirement total. Donc, il mangeait que des pâtes blanches, riz blanc. Et le truc, c'est que, mon fils, c'est quelqu'un, si tu nourris pas, il s'en fiche.
Ah ouais.
Tu vois, tu peux même pas faire du chantage.
Ouais.
Non, il est pas bonbon, il est pas... Donc, t'as aucun chantage à
faire. D'accord.
Ça, déjà, c'est vraiment si tu nourris pas, il se nourrit pas.
Bah,
tant pis.
Ouais.
Voilà. Donc, grosse frustration, mais j'ai appris pareil à lâcher. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai toujours proposé quand même des légumes. Je lui en mettais un petit peu, même s'il les mangeait pas, en fait, juste de les voir.
Ouais. De s'habituer.
Ça, voilà. Et commencer à s'habituer. Pareil, je l'emmène un maximum de fois avec moi faire les courses. Et souvent, il me dit, je veux goûter ça. Donc, il prend, il goûte. Généralement, il les finit pas, mais au moins, il a goûté.
Ouais.
Donc là, c'est ce qu'on fait depuis peu de temps. Il commence un peu plus chaque jour à manger plus de choses, donc je suis très contente. Et pareil, il adore me regarder cuisiner, donc il vient souvent avec moi en cuisine. Par contre, il est pas très... tu vois, c'est pas l'enfant qui va goûter la pâte quand tu fais un gâteau.
D'accord.
Il s'en fiche un peu, mais il aime bien être là. Donc voilà, il est là, il m'accompagne. Mais il commence à apprécier de plus en plus. Je l'ai accompagné avec moi sur des petits tournages, il adore regarder ça. Il a fait d'ailleurs une petite vidéo avec Tesmed.
Avec Tesmed, oui, c'est ça.
Adoré. Donc il commence un peu plus, mais ouais, c'était dur. C'était frustrant, surtout.
Bah, surtout pour toi, ouais, du coup. Parce que j'ai vu, en plus, t'as différentes influences dans ta cuisine.
Complètement.
Tu fais, ouais, la cuisine nord-africaine, caribéenne, healthy, enfin.
En fait, je me considère, enfin, quand on me demande, entre guillemets, ce que je cuisine, j'ai pas d'origine, d'origine particulière, en fait. C'est que je mélange tout. Ouais. Enfin, pour moi, par exemple, un truc bête, dans ma chakchouka, je vais mettre de la pâte de piment coréenne.
Ouais.
Tu vois, en fait, j'ai pas de...
cuisine un peu fusion aussi.
Hein, bah ouais, parce que j'aime... Enfin, vraiment, j'aime tout. J'ai pas de... Enfin, déjà, de base, je me considère comme une citoyenne du monde. Enfin, tu vois, j'ai pas de... d'origine particulière. Pareil, c'est comme la musique, j'aime toutes les musiques. Enfin, tu vois, je peux pas me contenter d'une épice, j'adore tout mélanger.
Ouais.
C'est pareil, en ce moment, je fais une recette que j'adore, c'est le batmi, c'est un banh mi, mais dans un pain bas de bout.
Ah ouais, d'accord.
Tu vois, c'est, j'adore ça, en fait, j'adore le fait, pour moi, la cuisine, c'est ça, c'est que tu peux tellement tout mélanger, tu peux t'éclater, donc, mais vraiment, je mélange tout au quotidien.
Ok. Tu avais un blog il y a quelques temps. Qu'est-ce qu'il est devenu? Let's Cook Tonight. J'y suis allée tout à l'heure. Il n'y a plus de...
Alors, mon blog... Alors déjà, il faut savoir que j'ai ouvert mon blog parce que j'ai une cousine qui me demandait mes recettes toutes les 4 matins. J'ai dit, écoute, je vais t'ouvrir un blog. Là-bas, j'ai ouvert que pour elle.
D'accord. C'est juste pour qu'elle ait checké tes recettes. Voilà.
Ouais, en fait, c'était juste parce que des fois, je faisais des choses et qu'elle me disait, ah, mais il me faut la recette. J'ai dit, écoute, je vais te faire un blog.
Ouais.
Tu vas checker les recettes dessus.
Et voilà, et tu me laisses tranquille.
C'est ça. Donc à la base c'était que pour elle.
Ouais.
Mais ça a plutôt bien pris. J'ai jamais beaucoup entretenu, etc. Mais ça a quand même bien pris. Là, je t'avoue que je regarde plus du tout.
Ouais.
Ça fait des années que j'ai rien posté. Mais sur le site que je travaille pour la rentrée, il y aura un espace blog. Et là, je vais reprendre mes recettes que je poste.
D'accord.
Je poste du coup des petites recettes sur Instagram, mais c'est moins régulier. Mais c'est vrai que le côté blog, je t'avoue que même pour moi, mes recettes de base sont sur le blog et souvent je vais les checker parce que c'est vraiment ce que j'utilise, quoi.
Okay.
C'est mon petit livre de cuisine perso, quoi.
Okay.
Donc, c'est juste qu'en fait, là, il me plaisait plus et que j'avais la flemme de le refaire.
Okay. En sachant que t'avais un nouveau site qui
en fait, comme ça fait un moment que je travaille sur le site, j'ai vraiment, pour le coup, pris un site avec un espace blog dessus que je trouve plus simple à travailler, du coup. Donc, il va revenir.
Ok. On attend.
Voilà. Je remettrai les recettes que j'utilise le plus, du coup, dessus. Ouais. Et je mettrai d'autres recettes. Mais du coup, pour la rentrée, j'aurai plus... je vais relancer ma chaîne YouTube aussi. Donc, je mettrai tous les liens dessus.
Okay.
Mais ouais, vraiment m'occuper de tout ce qui est digital. Parce que je t'avoue que même l'Instagram, tout ça, j'ai tout...
Ça prend du temps. Hein.
Ça prend trop de temps. Ouais. Et quand t'es dans ton truc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à faire. C'est, alors déjà, j'ai du mal à me projeter, à me prévoir, tu sais, pour avoir une sorte de calendrier.
C'est marrant, tu disais tout à l'heure que tu aimais bien anticiper, avoir des plans B et des plans C.
Alors oui, mais sur des choses très concrètes, tu vois.
Ok.
J'aime bien, en fait, les plans B, tout ça, je les ai dans ma tête. Mmh. Ça me va de les avoir et de me dire, ok, si ça, ça ne marche pas, ça, je l'ai. En fait, c'est un jeu, c'est quelque chose que je fais automatiquement sans forcément y avoir réfléchi. Mais le côté, ok, je me pose, je fais un calendrier de programmation, truc, ça, j'ai trop de mal. Pour Tessmet, je le faisais parce que c'était le boulot, et je le faisais avec plaisir, et j'arrivais à me mettre dedans. Mais quand c'est pour moi, en fait, je pense que c'est aussi un côté un peu... Déjà, je viens d'intégrer qu'il fallait que je me mette en avant, ça a été compliqué.
Ouais.
Parce que, encore chez Tessmet, tu vois, les vidéos, en fait, c'est bête... Mais quand je tourne, on est une équipe et il y a quelqu'un derrière la caméra et je lui parle et on est entre potes et là je kiffe.
Je vois ce que tu veux.
Tu vois?
Ouais.
Mais là c'est moi.
YouTube, tu sors toute seule, C'est pas évident.
C'est compliqué, c'est pas la même démarche et du coup, moi j'ai du mal à faire les choses si elles sont pas faites de façon naturelle et c'est pareil pour les photos. Des fois je fais des prestations de fou et je ne pense vraiment, je n'y pense pas.
À prendre des photos.
Une photo. Et c'est à la fin, je me dis,
merde,
Des fois, je fais des gâteaux de malade, je fais, merde.
Faut que t'aies un photographe avec toi, alors.
Mais c'est ça, mais en fait, je travaille vraiment seule.
Ouais.
Depuis très longtemps, j'ai pas le réflexe, je suis tellement à fond dans mon truc, j'ai tellement envie que le client soit bien. Je préfère passer ce temps avec lui. Quand je suis en prestation, j'ai même pas mon téléphone sur moi.
Ouais.
T'en comptes ou pas?
T'es à fond dans ton truc,
Ouais, je suis à fond, et c'est à la fin, je me dis, merde, j'aurais dû faire des stories.
C'est ça.
Donc c'est pour ça que là, j'envisage de travailler avec quelqu'un. Donc je t'en ai parlé tout à l'heure, je suis en train d'essayer de voir de m'associer, tout ça, pour justement avoir du temps pour gérer ça. Parce que vraiment, j'y arrive pas là.
Ouais. Ok, bah, c'est pas plus mal, ouais, du coup, si t'arrives à avoir quelqu'un qui t'accompagne là-dessus.
Parce que pour le coup, c'est compliqué.
Tu as fait une petite vidéo, on parle d'Instagram du coup, où tu présentais ton parcours et ce qui t'avait amené en fait à te lancer. Et je reprends une phrase en tout cas que tu évoques très souvent. Tu dis, à mon sens, chaque repas doit être un moment de pur plaisir. C'est ce que j'appelle les mini-kiffs quotidiens. Et ton objectif, c'est kiffer et faire kiffer. C'est quoi tes mini-kiffs du quotidien?
Alors déjà, ça va changer tous les jours, forcément.
Ouais.
Mais c'est vrai que chaque matin, quand je me réveille, je me dis juste, ok, qu'est-ce que je peux faire pour me faire kiffer?
Ah ouais.
Par exemple, hier, c'est des choses très bêtes. Hein. C'est pas forcément des choses élaborées ou quoi. Mais hier, alors il y avait un dessin animé à la télé.
Ouais.
Le Roi Lion.
Oui, hein, je l'ai vu aussi.
Tout le monde l'a vu. Et je me suis juste dit, en me réveillant, je me disais, ah c'est cool, il y a le Roi Lion. Je vais pouvoir me faire des pop-corn avec mon fils. Tu vois, c'est des choses bêtes.
Ouais.
Et du coup, le soir, j'ai fait mes petites pop-corn maison. On s'est posé. Alors, mon fils s'est endormi pour quelque temps. C'est pas grave.
Il a raté ce chef-d'œuvre.
Mais il s'est endormi au moment où... mon face à meurt.
Je suis en là... plus
mais non, mais remets-toi en pleurs. Je dis, mais non, c'est pas maintenant, tu dois faire ça. Mais, enfin... Mais en fait, voilà, dès le matin, c'était ça. Là, pareil, ce soir, aujourd'hui, je me suis dit, ah, c'est encore un film, hein, je suis
désolée. Ouais.
Mais je vais sans doute l'emmener au ciné ce soir, mm-hmm. voir Toy Story 4.
Mm-hmm.
Et pareil, je me suis dit, ah, bon, on va se faire un petit truc.
Ouais.
En fait, c'est des choses très bêtes. Mais chaque jour, il faut que j'ai juste un petit moment de kiff. Parfois, ça va être des choses...
C'est des choses simples, quoi. C'est...
Très simples. Mm-hmm. Ah, mais, de toute façon, dans ma cuisine, à la maison, il n'y a rien... Mais même dans ma cuisine, en général, il n'y a rien d'élaboré. Mmh. Hein. C'est des choses, juste des saveurs mises ensemble. Et voilà. Des fois, avec mon fils, je me dis juste, ah, aujourd'hui, on va se faire une pizza maison. Il va kiffer, je vais kiffer. Voilà. Mais par contre, il faut que chaque jour, et généralement, je me le fais au réveil, il y ait un petit moment, à part.
Voilà.
C'est ça.
C'est ça pour moi.
Exactement. Pour moi, le petit kiff, c'est ça.
OK. Quelles sont tes sources d'inspiration et de motivation au quotidien?
Alors honnêtement, partout, et dans chaque personne que je croise, je suis fascinée par les gens. J'aime tellement rencontrer des personnes, et ce qui est fou, et je pense que, enfin, je sais pas si tu as la même chose que moi, mais plus j'avance et plus je me dis, mais je rencontre des gens tellement inspirants. En fait, j'ai l'impression que t'attires les gens qui sont.
Mais t'attires les gens qui te ressemblent aussi, quelque part.
Quelque part, mais ce qui est marrant, c'est que plus j'avance dans ma vie. Et plus je rencontre, enfin vraiment, par exemple, je sais pas, je passe une soirée, et la seule personne à qui je vais parler, ça va être, mais je sais pas, un artiste de malade.
Ouais.
Je me dis, waouh! Tu vois, par exemple, c'est bête, Afropunk.
Ouais.
J'ai parlé qu'à un mec, et c'était un peintre de ouf, alors que je l'ai pas rencontré dans le truc des peintres, j'ai rencontré ailleurs. Et on a eu un crush de malade.
Et feeling,
en fait, à chaque fois, c'est ça, et puis ça peut être partout, ça peut être dans n'importe quelle situation, j'adore, regardez, j'adore faire plein d'événements pour me dire, ah, mais comment ils font, comment ils s'inspirent, comment...
un petit peu.
Dans les films, dans la musique, enfin, je suis une folle de musique, donc...
On a vu ça.
Mais ouais, vraiment partout, et j'adore parler aux gens, mais de tout, et je prends jamais... Enfin, pour moi, chaque histoire est incroyable, enfin, j'aime profondément connaître les gens.
Donc, c'est dans tout le monde,
il n'y a pas une... En fait, pour moi, le mot personne inspirante... On est tous inspirants d'une certaine manière, donc il n'y a pas de personne plus inspirante que d'autres, tu vois. Mais ouais, les gens sont inspirants, c'est par leurs histoires, par leur passé, par leurs expériences, c'est incroyable.
Canon. Quels seraient tes conseils à celles qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat?
Je pense qu'il faut pas trop réfléchir. Il faut prendre le truc. Et il y a un conseil que je sais plus si je l'ai lu ou j'ai trouvé ça très beau et je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Mais, et c'est ce que je fais aussi depuis peu de temps. Par exemple, je prends une situation complexe et je me dis, OK, quel est le pire qui pourrait m'arriver de cette situation? Et dans le pire, je me dis, OK, mais qu'est-ce qui serait cool quand même dans le pire? Et en fait, généralement, déjà, tu te rends compte que le pire est jamais, fou. Jamais rien de catastrophique en fait, enfin, et que en plus tu pourrais retirer quelque chose de positif. Donc après, par contre, le seul conseil, c'est que moi je suis un peu folle et j'ai des idées qui fusent, donc parfois je me dis quand même juste laisse-toi quelques jours.
Ouais.
Même s'il faut pas trop réfléchir, mais juste, ouais, parce que parfois j'ai des, alors moi je suis un peu folle d'idées et des fois je saoule tout le monde. Attends, mais faut que je fasse ça. Non, mais t'en penses quoi? Ouais, cool, ouais. Et je le fais pas. En fait, après quelques jours après, je me dis non, mais en fait, c'était nul.
Enfin, donc t'as besoin de, ouais, de
j'ai besoin de
prise de recul aussi,
ouais, hein, de se canaliser. Ouais. Après, ça dépend des caractères, mais moi, je suis, enfin, vraiment, j'ai des idées, mais à la con, mais en permanence.
C'est normal. C'est normal. C'est comme ça que tu fais émerger d'autres idées, justement.
Mais c'est ça. Mais en revanche, ouais, il y a plein d'idées cool qui émergent de ces idées.
Tu vois, comme quoi.
Mais par contre, ouais, des fois, je me dis juste, ok, pose-toi,
voilà,
réfléchis encore. Pas réfléchis, mais laisse-toi du temps. Mm-hmm. Et aussi un truc, des fois, quand t'es trop dans ton truc, juste sors. Fais autre chose.
Vois d'autres choses.
Vois, change-toi les idées et reviens dessus après, tu verras que t'as d'autres choses. Mais ouais, en gros, mon seul conseil, c'est faut pas se prendre la tête.
Ouais.
Vraiment.
Ok. C'est quoi les futurs projets de Let's Cook Tonight? Tu parlais tout à l'heure d'un potentiel, pas potentiel, d'un futur associé.
Oui. Bah en gros, là, en septembre, je vais lancer vraiment mon offre d'événementiel, donc qui comprend le repas assis, la scénographie, la musique. L'idée, c'est de créer un moment unique, une expérience pour mes clients où je vais cuisiner en dansant, où on va passer vraiment un moment de partage assez exceptionnel avec une scéno. Et l'idée pour le client, c'est qu'il ne s'occupe de rien du tout, qu'il est juste à me contacter, et je m'occupe de tout et je ramène mon univers chez lui.
D'accord.
Donc, je travaille sur cette offre. Donc, l'offre est assez ficelée. Faut juste que je fasse toutes les choses chiantes, à savoir l'administratif. Oui. Comme je t'ai dit, il y a un associé qui vient d'arriver, donc qu'on se cale, lui et moi, que je travaille aussi sur l'offre un peu plus concrète, le pricing. Donc ça, j'ai déjà pas mal avancé dessus, que je fasse un petit menu d'entrée. Parce que là, du coup, j'ai un menu, mais c'est un menu d'été. Pour septembre, il sera modifié.
Ouais.
Et voilà, enfin, toutes les choses concrètes. Mais comme j'ai envie aussi de profiter de l'été avec mon fils, j'y vais doucement et j'ai pas prévu de partir en vacances pour le moment, mais au moins, on se fera des petits week-ends aussi de là.
Ok.
Donc juste kiffer, me reposer aussi, parce que je sais que la rentrée va être intense. Parce que chaque année, je me fais avoir et je me dis non, mais je vais pas. Tu sais, je me mets un coup de pression l'été. Du coup, je suis toute stressée.
Ouais.
Et en fait, en septembre, c'est la folie et je me suis pas reposée. Et j'arrive en fin d'année.
Complètement crevée, ouais, c'est ça.
Donc là, je me suis juste dit, je chill.
Ouais.
Un mort.
Tu as bien raison.
Ouais, et j'y vais tout doucement et voilà. Et en septembre, on se mettra un petit coup de boost et voilà. Et puis vraiment, je me prends plus la tête.
T'as bien raison. Super. C'est quoi ta représentation d'une maman qui déchire?
La mienne.
Tellement facile.
Mais ouais. Non, en vrai, pour moi, une maman qui déchire, c'est une maman qui se prend pas la tête et qui ne juge pas les autres mamans. Voilà, pour moi, c'est juste ça.
Ouais.
J'ai tellement de... Pour moi, toutes mes copines mamans à déchirer. Parce que pourtant, on est toutes très différentes.
Ouais, clairement.
Mais ouais, pour moi, déjà, il y a un truc que je fais absolument jamais, c'est de juger les autres mamans, quoi qu'elles fassent. Bon, à part ceux qui maltraitent leur
mère. Oui, là, c'est un autre débat, là, c'est clair.
Débat. Mais ouais...
Chacune a sa manière de
faire. Fais ton kiff, enfin... Et crée-toi tes expériences avec tes enfants, et puis voilà. Mais pour moi, on est toutes des mamans qui déchirent, en vrai.
Ouais, j'aime bien.
Là, ouais.
Super. En tout cas, merci beaucoup, Linda, pour
merci
ce bon
toi.
Moment. À très bientôt.
À bientôt.
Encore un grand merci à Linda d'avoir accepté mon invitation. Pour suivre les aventures de notre chère foodista, je vous invite à vous abonner sur son compte Instagram Let's Cook Tonight et sur celui du collectif dont elle fait partie, Les Nanas de Paname. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram ou à me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. À bientôt !